Radio Prague, les informations. Bonjour, le gouvernement a adopté un ensemble de mesures d'austérité pour 2013 et 2014. Le Sénat rejette les conditions d'organisation pour un référendum et puis enfin relations tchécoslovaques. Robert Fico sera à Prague le vendredi 20 avril pour son premier voyage à l'étranger. Le gouvernement a adopté ce mercredi un ensemble de restrictions budgétaires pour 2013 et 2014 qui avaient déjà été préalablement fait l'objet d'un accord entre les leaders des trois partis formant la coalition gouvernementale. Selon cet accord, les deux taux de TVA de 14 et 20% appliqués sur les biens et services depuis le début de l'année seront augmentés d'un point supplémentaire. La revalorisation des retraites sera considérablement revue à la baisse, tandis que le revenu des personnes touchant plus de 100 000 couronnes par mois, soit plus de 4 000 euros, seront imposés d'une taxe supplémentaire de 7%. L'objectif du gouvernement avec ces mesures est de limiter le montant du déficit du budget de l'État à 2,9% du PIB en 2013 et à 1,9% en 2014. Sans surprise, le Sénat, où l'opposition de gauche est majoritaire, a rejeté ce mercredi les conditions figurant dans le projet de loi sur le référendum qui a été récemment approuvé par le gouvernement. Selon ce nouveau texte, un référendum pourrait être organisé si une pétition signée par 250 000 citoyens le réclame. L'initiative pourrait également provenir du gouvernement. L'accord des deux chambres du Parlement serait néanmoins nécessaire pour que le référendum puisse être organisé. Une majorité constitutionnelle est nécessaire pour l'adoption du projet. Ce mercredi, la Chambre haute du Parlement a estimé que les conditions figurant dans le projet de loi pour l'organisation d'un référendum avaient en réalité pour objectif d'empêcher leur tenue. Le Sénat a donc réclamé une loi, je cite, « dans une forme habituelle dans les pays démocratiques ». Le nouveau Premier ministre slovaque Robert Fico effectuera une visite en République tchèque vendredi prochain 20 avril. Comme il l'avait annoncé, il s'agira du premier voyage à l'étranger du leader des sociaux-démocrates slovaques, grand vainqueur des élections législatives qui se sont tenues en mars. Il sera reçu par son homologue Petr Nečas et le président de la République tchèque Václav Klaus. Suite à sa victoire, Robert Fico avait déclaré que quelle que soit l'orientation politique de leur gouvernement, les relations entre la Slovaquie et la République tchèque ont toujours été excellentes. Se rendre à Prague ou à Bratislava pour leur premier voyage à l'étranger dans leur nouvelle fonction est une tradition à laquelle se plient régulièrement les premiers ministres des deux pays depuis la partition de la Tchécoslovaquie en 1993. Le taux d'inflation en République tchèque s'est élevé à 3,8% en mars dernier. Il s'agit d'augmentation de 1/10 de point par rapport à février et du taux le plus élevé depuis novembre 2008. Les chiffres ont été communiqués par l'Office national des statistiques. Pour le 7e mois consécutif, cette inflation s'explique essentiellement par la hausse des prix des denrées alimentaires et des boissons. Par rapport à mars 2011, le prix des œufs a ainsi augmenté de 124% et ceux du pain et des boissons non alcoolisés respectivement de près de 20% et de 14%. Les prix du logement ont également notoirement augmenté. Selon les spécialistes, le taux d'inflation ne devrait cependant pas dépasser la limite des 4% cette année et devrait même baisser à partir du second semestre. Le gouvernement a approuvé ce mercredi les principaux points du projet de loi dit de constitution financière, la création d'un conseil indépendant chargé du budget et l'instauration d'une limite maximale pour le montant du budget de l'État sont deux des points essentiels du texte présenté par le ministère des Finances. Le Premier ministre entend faire adopter cette loi qui vise plus généralement à réformer la gestion publique avant la fin de l'année. On termine avec un mot de météo. C'est un temps très variable qui règne sur l'ensemble du territoire ce jeudi, jour de la fête des Julius. Très nombreux, les nuages entraînent quelques averses passagères. Les précipitations, devraient être un peu plus abondantes dans l'est du pays. Les températures sont en légère baisse et varient entre 9 et 13 degrés pour les maximales. Aucune amélioration n'est attendue pour la fin de la semaine. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Qu'a eu le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Merci également de rester encore quelques instants en notre compagnie et plus précisément en la compagnie de Magdalena Rosinkova pour la suite de notre programme. Faits et événements en République tchèque.
Bonjour et merci à Guillaume Narguet pour son bulletin d'information. Le gouvernement tchèque a adopté de nouvelles mesures d'austérité visant à maintenir le déficit du budget de l'État dans les années 2013 et 2014 en dessous du seuil de 3% du PIB. Les détails dans cette émission. À l'Est du Nouveau, c'est le nom d'un festival qui essaye de promouvoir en France les films produits en Europe centrale et orientale. Sa 7e édition s'ouvre ce jeudi à Rouen, en Normandie. Le directeur du festival, David Duponchel, sera en ligne avec nous dans quelques minutes. Et puis dans notre rubrique historique, il sera question aujourd'hui de la création de l'armée tchécoslovaque entre 1945 et 1950. Nous en parlerons avec un jeune historien français, Paul Lenormand. Bonne écoute! Après la crise gouvernementale de la semaine dernière, le cabinet du Premier ministre Petr Nečas a conjuré les élections anticipées et a adopté l'ensemble des mesures d'austérité qu'il juge nécessaires pour réaliser son programme de responsabilité budgétaire. Cette cure d'amaigrissement radical touchera pratiquement toutes les couches de la population. Václav Richter.
Maintenir le niveau du déficit budgétaire au cours des années 2013 et 2014 en dessous de 3% du PIB, telle est la condition sine qua non pour le Parti civil démocrate ODS et le Parti Top 09 pour la conservation de la coalition gouvernementale actuelle. Face à la menace des élections anticipées qui lui serait sans doute fatale, le Parti Affaires publiques, troisième membre de la coalition qui voulait d'abord retirer ses ministres du gouvernement, a été contraint de modérer son attitude. Le Parti récalcitrant s'est vu obligé d'accepter ces conditions qui lui étaient présentées sous la forme d'un ultimatum. Le programme d'austérité préparé par les ministres chargés des secteurs économiques a été adopté ce mercredi par le cabinet Petr Nečas. Le programme doit encore être approuvé par le Parlement et le Premier ministre a déjà laissé entendre qu'il ne tolérerait aucune dérogation à ce qu'il appelle une stratégie de consolidation.
Soit l'accord et sa réalisation ou les élections anticipées. J'ai dit sans équivoque que ce projet gouvernemental n'a de sens qu'à la condition qu'il remplisse la stratégie de consolidation. Cette stratégie est fixée et ne peut pas être changée. Si quelqu'un ne la respecte pas, il est inutile de conserver la coalition gouvernementale, même une seule heure de plus. Ce qui était valable il y a une semaine sera valable aussi dans une semaine, dans un mois, etc. Même dans le cas où quelqu'un essaierait de ne pas remplir ou de modifier ses engagements.
Les trois partis de coalition disposent d'une confortable majorité dans la Chambre des députés pour imposer leur politique d'austérité. Les restrictions budgétaires et les mesures fiscales préparées par le gouvernement sont en effet bien sévères. Les deux taux de la TVA augmenteront d'un point et atteindront à partir de l'année prochaine 21% et 15%. La revalorisation des retraites sera considérablement réduite et les revenus des personnes qui touchent plus de 100 000 couronnes par mois, 4 000 euros, seront imposait d'une taxe supplémentaire de 7%. La coalition a également décidé de supprimer les plafonds pour les paiements de l'assurance maladie et l'allègement fiscal pour les retraités qui travaillent. Les revenus des personnes physiques seront en outre imposés d'une taxe de 20%. L'administration de l'État devrait économiser 12 milliards de couronnes, 480 millions d'euros. Ces mesures seront en vigueur pendant 3 ans. Selon le ministre des Finances Miroslav Kalousek, Top 09, cette politique d'austérité sera réalisée à 2 niveaux. C'est au premier niveau, ou comme il le dit, à l'étage supérieur, que seront faites les économies les plus importantes.
Il s'agit d'une TVA plus élevée, d'une réduction massive des frais de l'administration de l'État et d'une baisse de la revalorisation des retraites. Quant à l'étage inférieur, il est extrêmement important du point de vue de la solidarité sociale. Cela concerne notamment l'imposition des travailleurs indépendants.
Le programme d'austérité est rejeté par l'opposition qui déplore que la crise gouvernementale n'aboutisse pas aux élections anticipées. L'opposition et les syndicats cherchent maintenant à mobiliser la population contre ces réformes et préparent un large mouvement de protestation.
Jeudi 12 avril s'ouvre à Rouen et à Mont-Saint-Aignan, en Normandie, la 7e édition du festival À l'Est du Nouveau consacré au cinéma d'Europe centrale et orientale. Ce festival créé en France et au Pérou, où la même programmation est présentée en été, se veut être une vitrine de la production récente et souvent inédite en France. À l'affiche du festival figurent des films d'animation tchèques Le jardinier qui voulait être roi et L'atelier enchanté, ainsi qu'une section spéciale dédiée à Václav Havel. À Rouen, nous avons joint le fondateur et directeur du festival, David Duponchel.
Il y a 7-8 films sur les 9 qu'on présente qui sont soit en avant-première ou soit qui sont des inédits en France et pour certains qui n'ont pas été présentés. Voilà. Donc en fait, on est un peu une tête de pont qui diffuse ses œuvres et après en fait des distributeurs français vont distribuer les films sur la France entière. Donc je pense par exemple au film de Kamen Kalef, The Iceland, ou le dernier Sokurov qui s'appelle Faust, ou Krulik aussi qui a un documentaire d'animation qui sortira en France en septembre. Et donc voilà, donc on fait partager un peu notre passion du cinéma et en offrant des films en fait qui n'ont pas été vus ailleurs, dont notamment en fait on va présenter aussi qu'un film, une coproduction tchèque et slovaque, La Maison, Doom, et puis un film slovaque également qui s'appelle L'île d'abricot. Alors là je ne pourrais pas vous donner la traduction. Voilà, et donc ces deux derniers films sont plutôt des inédits parce qu'ils n'ont pas encore trouvé de distributeur en France.
Et en ce qui concerne le cinéma tchèque, donc aucun film tchèque ne figure dans la compétition. C'est parce que vous n'avez trouvé rien d'intéressant dans la production récente tchèque.
Bon, la maison, c'est une coproduction.
C'est une coproduction.
Bah, Alois Nebel, que j'aurais bien pris, en fait, est sorti avant en France. Et donc, que j'avais l'intention de mettre dans la sélection. C'est vrai, bon, bah, il y a des années, il y a aussi très peu de films hongrois. Après, je n'avais pas de films hongrois non plus. Et c'est vrai que cette année, la production polonaise est assez florissante. Hein. C'est peut-être dû aussi à leur économie. Et donc, il doit y avoir trois films polonais. Et je suis sûr que l'année prochaine, il y aura des films tchèques en sélection. Voilà. Oui, j'avais pensé au dernier film de Slama aussi, qui s'appelle Four Sons. Et donc, je pense peut-être que l'année prochaine, il fera partie de la sélection. Voilà.
En revanche, vous présentez hors compétition une section qui met à l'honneur l'ancien président tchèque, écrivain, dramaturge et aussi cinéaste Václav Havel. Quels sont les événements que vous présentez dans le cadre de cette section?
Alors en fait, on va présenter ces deux films, Citoyen Havel, et on va présenter aussi Sur le départ, son œuvre. Et puis moi, pour moi, c'était très très important de, justement, juste avant les élections françaises, de présenter l'œuvre d'un homme politique qui était à la fois artiste et de nous interroger un peu sur ce que c'est que être engagé, être la dissidence aussi, qu'est-ce que ça signifie à notre époque. Et donc pour cela, on va faire une table ronde à une grande librairie de Rouen qui s'appelle L'Armitière, qui aura lieu le vendredi 20 avril, où on a invité une spécialiste française qui s'appelle Alexandra Laniel-Lavastine et une tchèque qui s'appelle Katia Hala, qui est donc la traductrice des œuvres, en partie des œuvres de Havel, mais pas seulement d'Havel, aussi d'autres auteurs français, et donc qui vont nous emmener un peu dans le jeu politique d'Havel et aussi dans son jeu théâtral, et de voir en fait ce qu'il y avait en commun ou ce qui est complètement différent, et puis de sensibiliser. Moi je trouve que on perd un peu, je suis désolé de le dire, mais la politique perd un peu son sens, surtout en France, hein, avec tout ce côté médiatique, etc. On n'est plus dans des débats d'idées, alors que M. Havel était un homme d'idées, un homme de critique, un de ces hommes politiques qu'on n'a plus malheureusement.
Le festival À l'Est du Nouveau, dont les principaux invités seront cette année le cinéaste polonais Leszek Dawid et le réalisateur islandais Fredrik Thor Fredriksson, se déroule jusqu'au 21 avril prochain. Plus de détails sur son site internet au www.alest.org. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Prague. Notre programme se poursuit par la rubrique historique. Les années qui suivent la fin de la Seconde Guerre mondiale sont une période mal connue de l'histoire contemporaine. Tandis qu'en Europe centrale, les mouvements forcés de population et le déplacement des frontières redessinent la carte politique de l'Europe centrale, les armées nationales qui se reconstituent au lendemain de la guerre participent au maintien de la cohésion nationale et de la sécurité des États. Au même moment, la montée au pouvoir des communistes, sortis vainqueurs du conflit mondial, joue en faveur de la logique des deux blocs qui s'imposent progressivement et pour plusieurs décennies comme le nouvel ordre géopolitique de l'Europe. Paul Lenormand est un jeune historien doctorant à l'Institut d'études politiques de Paris et au CEFRES à Prague. Son travail de recherche porte sur la création de l'armée tchécoslovaque entre 1945 et 1950. Au micro de Paul Bauer, il raconte les premières années de cette nouvelle armée, son rôle de ciment du tchécoslovaquisme et son orientation vers le socialisme d'État.
Chapitre de l'histoire.
Alors, travailler sur la reconstruction de l'armée tchécoslovaque en 1945, c'est-à-dire travailler sur un contexte difficile, est-ce que la Tchécoslovaquie est pacifiée après 1945, après l'armistice ?
Alors non, justement, la Tchécoslovaquie affronte plusieurs problèmes après 1945. Alors, d'abord, vous le savez, il y a la question des minorités nationales en Tchécoslovaquie qui joue un rôle crucial. Alors, le souci pour les Tchécoslovaques, qui sont tous d'accord là-dessus, en tout cas pour le gouvernement de Front National qui a été constitué en 1945, c'est d'expulser un maximum d'Allemands et, si possible, également de Hongrois. Alors, non seulement on veut expulser une partie de la population, mais en plus, il y a des tensions de plus en plus fortes au fil de l'après-guerre entre les Tchèques et les Slovaques, donc les deux populations les plus importantes de la Tchécoslovaquie à ce moment-là. Et donc tout l'enjeu, c'est d'éviter une scission du pays en deux, voire une intervention étrangère de la part, par exemple, de l'Union soviétique. Alors, parmi les autres difficultés que rencontrent les Tchécoslovaques, c'est justement cette question de frontières, puisqu'on expulse des populations qui, pour la plupart, sont situées dans les zones frontalières, et il s'agit de conserver l'État tchécoslovaque tel qu'il était avant 1938, avant les accords de Munich. Alors, le gouvernement tchécoslovaque en exil a déjà dû céder la Ruthénie subcarpatique à l'Union soviétique. Elle aimerait bien conserver le reste du territoire de façon intégrale.
Et donc l'armée tchécoslovaque, à ce moment-là, a un rôle de consolidateur ou sécuritaire, évidemment, pour la Tchécoslovaquie d'après 1945.
Alors oui, effectivement, l'armée tchécoslovaque consolide la souveraineté nationale. Alors elle est un outil symbolique d'une certaine manière, puisqu'elle montre aux grands alliés, États-Unis, URSS notamment, que les Tchécoslovaques se sont battus pour leur liberté, qu'à partir des éléments qui constituaient l'armée tchécoslovaque en exil, ils ont rétabli donc leur souveraineté sur leur territoire. Et puis cette armée, en plus, elle sert à alimenter une partie des unités de sécurité spéciales qui plus tard formeront les unités du ministère de la sécurité intérieure, connues pour leur association au Parti communiste tchécoslovaque. Et en plus, l'armée tchécoslovaque contribue à l'expulsion des Allemands et à la sécurisation des frontières. Il y a un certain nombre de projets qui sont émis par justement l'état-major tchécoslovaque pour changer les frontières et pour renforcer le territoire tchécoslovaque, notamment en annexant certains territoires de Silésie, de Basse-Autriche, pour élargir un petit peu la Tchécoslovaquie, qui a cette forme de concombre, évidemment, et qui est fragile, puisqu'il y a des populations jugées hostiles au nord comme au sud.
Une question sur cette armée tchécoslovaque, elle est composée de quelles personnes ?
Alors, ce qui est très intéressant dans le cas de l'armée tchécoslovaque, c'est que contrairement à certaines armées qui ont aussi connu une occupation, comme l'armée française, une bonne partie des membres de cette armée tchécoslovaque sont pas forcément des hommes complètement nouveaux, mais des hommes qui étaient des marginaux dans l'armée d'avant-guerre. C'était des hommes plutôt jeunes et qui n'étaient pas au grand poste de responsabilité. En gros, la plupart de l'élite de l'état-major tchécoslovaque avant la guerre a disparu. Alors, fait de résistance, un certain nombre de généraux ont été fusillés, emprisonnés par les Allemands. D'autres personnalités militaires se sont compromises pour, un peu comme le maréchal Pétain, épargner les souffrances dans le protectorat, par exemple. D'autres personnalités se sont compromises dans l'état slovaque, hein, vous le savez, cet état qui s'est constitué en mars 1939 de façon autonome par rapport à l'ancienne Tchécoslovaquie. Et donc, en 1945, l'armée tchécoslovaque bénéficie en réalité de cadres assez jeunes qui ont combattu à l'ouest d'abord, puis ensuite à l'est, aux côtés des soviétiques, des britanniques, bref, qui ont combattu pour justement la libération du territoire tchécoslovaque. Donc ce sont des éléments assez hétérogènes. En plus, il faut ajouter qu'on ne peut pas se débarrasser de tous ces anciens militaires qui faisaient partie de l'État slovaque. Et donc il faut les intégrer, alors que pendant la guerre, ils ont combattu contre la Pologne, puis contre l'URSS, et ils se sont révoltés au cours de l'insurrection nationale slovaque en août 1944, et ils ont regagné le droit de faire partie, si vous voulez, de la nation tchécoslovaque. Mais malgré tout, leur fiabilité reste douteuse, ils sont assez anticommunistes, ils sont proches du parti populiste slovaque, de l'ancien parti populiste slovaque, catholique, conservateur, assez réactionnaire.
Alors vous travaillez sur la période 1945-1950, ça veut dire que vous prenez en compte la montée au pouvoir et la prise du pouvoir des communistes en 1948. Comment est-ce que cela se passe au sein de l'armée tchécoslovaque, qui est l'un des maillons de cette prise de pouvoir ?
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la vraie rupture, c'est pas forcément 1948, c'est 1945. Parce qu'en 1945, le Front National, hein, qui est fortement marqué par la présence des communistes, mais dont le ministère de la Défense n'est pas confié à un communiste en titre, donc le général Ludwig Svoboda, hein, qui est réputé pour sa proximité avec les communistes, mais qui malgré tout n'est pas un communiste, ce ministère va chercher à défendre, ce gouvernement et son ministère de la Défense vont chercher à défendre l'idée d'une armée politisée, c'est-à-dire d'une armée démocratique et populaire. Donc une armée qui serait l'émanation du peuple tchécoslovaque, qui ne pourrait pas connaître de dérives fascisantes ou de dérives antidémocratiques. Et donc évidemment, les communistes vont jouer un rôle de premier plan dans cette politisation, puisqu'ils vont placer au poste de contrôle, justement en arguant de cette nécessité de d'épurer, d'éliminer les éléments qui sont suspectés de ne pas accepter la démocratie dans sa nouvelle forme, une démocratie plus sociale, plus tournée vers l'URSS. Et ils vont donc occuper notamment les postes stratégiques du contre-espionnage militaire et de la formation des officiers, hein, ce qui permet évidemment de former des officiers qui soient davantage acquis aux idées nouvelles, disons, et puis d'éliminer à travers un certain nombre de complots les officiers qui sont jugés hostiles au Parti communiste.
Une dernière question, quel est pour vous l'intérêt de travailler sur l'armée tchécoslovaque dans cette période de l'après-guerre ?
L'intérêt, en fait, il est multiple, hein, puisque ça permet de travailler à la fois sur la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale, sur la collaboration, puisqu'il y a des épurations qui ont lieu à la fin de la guerre, sur la phase un peu mal connue, finalement, de l'après-guerre. Hein, souvent, on l'assimile à une transition rapide, mais finalement, les choses se font d'une manière un peu plus progressive, notamment en Tchécoslovaquie. C'est un cas plus intéressant, peut-être, que d'autres cas où les choses sont assez brutales. Et puis ça permet de travailler sur l'entrée en guerre froide. Comment on rentre dans la guerre froide, et notamment dans une armée, puisque une guerre froide, ça suppose peut-être de se battre, on ne sait pas quand, mais peut-être de se battre. Et alors, est-ce qu'on va se battre avec ses anciens alliés britanniques, américains, français ? La question se pose évidemment pour ces militaires, sachant qu'il y en a qui partent à l'ouest, et donc il y a des émigrés, qu'il peut y avoir des renseignements qui circulent. Donc il y a toute une nébuleuse, hein, qui se construit et qui va se figer justement à partir des années 50. Les choses ne sont pas complètement jouées.
C'était l'historien français Paul Lenormand dans les chapitres de l'histoire. C'est ainsi que se termine le programme de Radio Prague en langue française. Magdalena Rosinkova vous remercie de votre attention. À la prochaine.